Salut Snéa!
Bonjour.
Tu vas bien?
Oui, ça va et toi?
Ben écoute, je suis ravie de te recevoir parce que tu travailles chez Jus Mundi et dans ta carrière, tu as fait un grand écart. Donc, je te laisse nous dire qui tu es en quelques mots.
Alors, merci pour l'invitation tout d'abord sur ton podcast. Je m'appelle Snéa, je suis d'origine indienne, je suis venue en Paris en 2012. J'ai fait une double formation d'avocat en une école de droit en Inde et ensuite une autre école de droit sur Paris à Sciences Po. Et j'ai fait 3 ans dans un grand cabinet d'avocats, Gilles Loiret-Noël, sur Paris. Et après, j'ai quitté le domaine du droit pour aller travailler en marketing chez Jus Mundi. Du
D'accord.
coup,
Donc
voilà.
t'as craqué quoi. T'as fait une reconversion professionnelle.
Complètement, 100%, rien. À... Bon, après, je suis head of marketing en legal, dans une legal tech. Donc, on discute, on échange tous les jours nos prospects, nos clients, et ça reste dans le domaine du droit. Mais j'exerce pas comme avocate quand j'ai fait le cabinet d'avocat, par exemple. Donc, c'est complètement différent, mais je peux réutiliser mon expérience de passé, le master que j'ai fait en arbitrage. Donc, tout ça, c'est des avantages pour la reconversion de mon
Oui.
profil.
Bon, ben c'est top. Et tu peux nous expliquer ce que fait Jus Mundi, justement? C'est un domaine que je ne connais pas, alors explique-nous ce que tu fais, ce que c'est.
Oui, avec plaisir. Alors, Jus Mundi, c'est la Smart Search pour le droit et l'arbitrage international. Et les professionnels du droit, comme les cabinets d'avocats de toutes les tailles, les grands, les petits, les boutiques, les gouvernements, les entreprises, même tous utilisent Jus Mundi pour leur recherche juridique et due diligence, notamment en arbitrage. Chez Jus Mundi, notre but, c'est d'améliorer l'accessibilité à l'information juridique mondiale. Ça, c'est très important, mondiale.
Oui.
Et nous avons facilité le travail en créant un seul plateforme avec une base de données unique, complète et fiable pour chaque domaine du droit et l'arbitrage international. Donc, tout est accessible pour les avocats sur une seule, le même plateforme en fait. Et c'est ça l'avantage de Jus Mundi, que c'est un seul abonnement pour les avocats et tu as différents domaines, donc ça facilite des choses pour les acteurs en droit.
D'accord.
Voilà.
Et au niveau tarif, vous vous situez où?
Alors, c'est un abonnement, ou si c'est un cabinet d'avocats, c'est un abonnement. Si c'est un cabinet multinational, c'est par an, c'est un abonnement annuel. Après, on a quelques clients qui sont partis pour pluriannuel, les abonnements comme ça aussi. Mais en gros, chez nous, c'est un abonnement au niveau d'un cabinet et pas une seule personne
D'accord.
de l'équipe. Donc, voilà.
Ouais, donc c'est intéressant.
Oui, c'est intéressant et pour les tarifs, c'est adapté à la taille du cabinet ou entreprise. Tout dépend de si tu es multinational avec 200 avocats ou
Oui, bien
5
sûr.
personnes dans ton cabinet. Donc, les tarifs sont plutôt adaptés à la taille de l'équipe.
Alors, j'aimerais bien revenir sur ta clientèle qui est internationale. Et en plus, tu t'adresses pas qu'à des cabinets, puisque tu t'adresses aussi à des entreprises. Alors du coup, comment on fait pour dresser un persona type dans ce contexte?
Alors, ça, c'est une très bonne question, notamment dans le monde des avocats, parce que c'est un profil quand même, on ne parle pas de e-commerce, le produit, c'est dans un domaine qui est très, très formel. Donc, pour le persona, justement, il faut bien identifier, il faut connaître d'abord la vie des avocats. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà fait cette vie, d'avoir déjà vécu dans un grand cabinet, donc j'ai vu des choses. Et donc pour le persona, pour nous, c'était l'exercice, c'était plus facile, on va dire, parce que bah, un avocat, c'est quelqu'un qui, quand ils font de la recherche, il faut que la base de données soit... il faut faire confiance sur la base de données. Ça, c'est très, très important. Et du coup, pour tout ce qui est la confiance, accessibilité, et puis pour avoir aussi... c'est quand même une personnalité qui a beaucoup de stress, et tu peux même faire une crise d'angoisse, tu vois, quand tu fais l'avocat, tu travailles pas mal. Donc, tout ça, en fait... ça fait partie de persona. Et puis, dès que tu as un produit, les avocats, la première question, c'est quelle est la preuve que ça va fonctionner. Donc, ça fait un des éléments dans le persona. Donc, voilà. Donc, quand tu lances un produit, tu penses assez vite, OK, on lance le produit. Qu'est-ce qu'on va raconter comme une histoire? C'est un avocat en face. Donc, il faut beaucoup de preuves que le produit va fonctionner, ça va vous aider. Comment ça va vous aider? Après, tu les expliques. Donc, les avocats des grands cabinets, ils n'ont pas de temps en plus. Tu as les horaires, tes target hours, les billables pour la facturation et tout ça. C'est des gens pressés.
Oui, donc, c'est ça.
Le temps aussi est super important et ça fait partie du persona. D'ailleurs, le temps, je veux dire, les avocats du cabinet versus un juriste d'une boîte, le temps, ils ont tous pressé. Donc, tu as quelques éléments partagés quand c'est un avocat d'un cabinet d'avocats versus les juristes. Après, bien sûr, tu n'as pas en fait le même persona quand c'est un juriste, parce que justement, ils font pas le même travail. Ils travaillent avec un avocat, avec un grand ou un petit cabinet, dépend de leur mission, le projet, ce qu'ils font, et tout dépend de ça. Et ça veut dire que c'est quand même oui, tu as des éléments de la personnalité des avocats, mais finalement, tu sais aussi que eux, ils ne vont pas faire toute la recherche, parce que c'est outsourcé à un autre, dans un cabinet d'avocats ou un avocat externe. Donc, tu ne peux pas avoir le même pitch si tu veux présenter le produit. Il faut bien penser que comment c'est adapté aux besoins des juristes. Et comme ce n'est pas des mêmes besoins, pour eux, c'est d'avoir... ils ne vont pas faire la recherche de même manière comme les avocats du cabinet. Du coup, voilà. Donc, moi, j'aime bien faire des personas et de suivre un peu ça dans la communication, parce que ça, assez vite, ça devient clair que, OK, c'est... pour ce produit, 90% c'est des avocats du cabinet. On va adapter la stratégie. Oui, voilà, le discours. Et derrière, bien sûr, quand tu fais des personas, c'est utile même pour l'équipe sales. Hein. C'est les gens qui appellent, qui prennent contact directement avec les avocats. Donc, il faut qu'eux aussi ils comprennent bien. OK, quand c'est un avocat, ton discours, c'est
A. Mais, ouais, mais B, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, on a l'impression que le marketing travaille tout seul dans son coin, alors que le marketing, ça peut vraiment être un peu une fusée pour l'équipe commerciale. Parce que toi, justement, tu peux aussi avoir des données qu'eux n'ont pas, et eux peuvent te faire aussi des retours pour adapter, toi, ton marketing. Et on sent que tu as travaillé en cabinet d'avocat aussi, hein, parce que tu connais super bien les problématiques.
Oui, mais c'est un avantage hein, de créer justement le persona. Moi, je présente en vrai les problèmes que moi j'ai eu et confrontés dans le passé. Et
Ouais.
ça rentre dans le persona. Donc, un grand avantage d'avoir.
C'est un argument aussi marketing, non, pour toi de dire ben oui, mais moi aussi j'étais avocate, je connais bien vos problématiques, c'est un argument commercial même.
Ah oui, tout à fait. C'est le discours, justement, ça vient naturellement pour moi parce que d'avoir déjà vécu cette vie, on parle la même langue, si tu veux. Donc, moi, j'ai pas pris des efforts
Ouais.
pour capter le vocabulaire des avocats. Moi, je parle cette langue-là.
Tu parles
Et
avocat?
c'est ça que c'est ça, c'est exactement ça. Et ça, c'est pas très facile pour ceux qui travaillent en marketing mais qui n'ont pas fait les études de droit. Et du coup, oui, très, très important de garder le discours parce que l'erreur que tu peux faire, c'est de ne pas parler, de ne pas utiliser les termes, ça peut être tout ce que tu veux, hein, une actualité, mais ça doit concerner ton
Oui,
persona.
tout
Tu ne
à
peux
fait.
pas tout seul développer ta propre stratégie sans penser de ton persona. Et deuxième chose, l'erreur qu'on voit assez régulièrement, surtout notamment quand tu es startup, tu ne connais pas tous les enjeux du domaine marketing, il faut assez régulièrement discuter avec l'équipe sales, l'équipe commerciale. C'est très, très important parce que c'est les gens qui peuvent te donner feedback et les clients ou les prospects, les réunions Zoom physiques, ce qu'ils font tous les jours. C'est quand même dommage si tu ne discutes pas avec ton head of sales,
Complètement.
le chef de département. C'est très, très important pour justement connaître un peu plus sur tes prospects et les deux personas que dans le cas de Yousmoundi, c'est ça.
Pour ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent aussi, la connaissance du persona, c'est essentiel. Donc, à partir de cette connaissance du prospect, comment tu fais pour faire connaître Jusmundi?
Alors, tu as beaucoup, beaucoup de moyens, des façons à faire un peu, on appelle ça brand awareness, la connaissance de la marque et notamment Yousmoundi, c'est international. Donc, moi, pour tout ce qui est la stratégie, c'est adapté. C'est global, c'est tout le temps global. Donc, je ne peux pas juste dire, OK, je vais faire la communication en français. Non, chez nous, c'est international. Du coup, tout ce qui est la communication, on le fait en anglais. Parce que dans mes personas que je t'ai mentionné, ils tous parlent l'anglais couramment.
D'accord.
Donc, on n'a pas ce problème. Donc, déjà, ça, c'est il faut d'abord savoir un peu quelle langue. Mais après, oui, on est multilingue. Hein, donc, moi, je fais quelques communications en français, espagnol, tout ce que tu veux. Mais donc, voilà, donc la langue, le premier élément. Ensuite, tout ce qui est contenu sur notre blog, tu peux pas juste rédiger un contenu en disant que, ah oui, moi j'aime bien ce type d'article et je vais écrire parce que j'ai rigolé quand je l'ai écrit, tu vois. Donc, le contenu, il faut bien penser à tes personas et leurs besoins et comment ça peut servir à un avocat qui lit et pourquoi il doit lire. Et du coup, tu fais ton contenu un peu intéressant et faire apprendre quelque chose à la fin. Parce que, encore une fois, c'est des gens qui n'ont pas de temps. Hein. Donc, le contenu, tu ne peux pas rédiger 100 pages. Non, c'est un article sur le blog, donc 2 pages maximum en Word. Donc, ça, c'est contenu. Après, tu as les réseaux sociaux, tu as tout ça à gérer aussi, un peu de community management derrière pour publier ton contenu, de parler de tes produits. Si tu lances un nouveau produit, peut-être que tu organises un webinaire sur la thème.
Oui, c'est ce que tu fais, toi. Ouais,
Oui,
t'organises des
exactement.
webinaires, ouais.
Oui, et les webinaires, oui, après, maintenant, tu as beaucoup de fatigue de Zoom, etc. Donc, il faut bien penser, il faut bien réfléchir sur quoi, en fait, le sujet, le thème de ton webinaire. Il faut bien réfléchir et mon conseil, en fait, est de ne pas tout le temps commercialiser ton webinaire. De ne pas avoir tout le temps la stratégie derrière que, OK, à la fin, on va vendre un produit. Et nous, parce que ça fonctionne pas. Les gens,
Mais alors tu parles de quoi dans tes webinaires, par exemple?
tu touches, tu vois un peu l'actualité. Après, bien sûr, tu vois pas si le sujet a été discuté 100 fois déjà, tu vas pas choisir le même, mais il faut un peu faire brainstorming avec ton équipe, de chercher un thème. Là, récemment, on a fait un événement, c'était par invitation seulement, et on l'a fait avec les juristes. Seulement les juristes. Et nous, on l'avait vu dans le marché que tu n'avais pas des webinaires, enfin, assez de webinaires ou très fréquemment avec seulement les juristes sur le panel et pas des avocats du cabinet. Et du coup, nous, on s'est dit, OK, pourquoi pas faire un webinaire sur le management. Un peu l'organisation des affaires, comment ils gèrent en fait. Moi, j'étais curieuse personnellement et on a dit, OK, faisons un événement. C'est une occasion de un peu faire apprendre aux autres aussi et c'est un sujet intéressant. Et là, du coup, voilà, le webinaire, on a eu des bons speakers très, très connus, des boîtes CAC 40, tout ce que tu veux. Et derrière, ce qu'on a dit, OK, c'est quand même un sujet pas discuté fréquemment. Nous, on va préparer un article, un white
Oui, d'accord.
paper
Ouais.
de qu'ils ont discuté pendant l'événement. Donc, tu vois, à chaque fois, tu peux créer de contenu aussi parce que la question assez souvent, c'est qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que je peux faire? Et il faut avoir un peu de la diversité aussi dans tes articles et tu ne peux pas écrire sur un thème tout le temps le même sujet. Du coup, voilà, c'est ça que j'ai fait. C'est un exemple real time. Hein,
Non, mais c'est bien, mais
ouais.
j'aime bien ce côté, j'organise un webinaire et on échange sur les bonnes pratiques sans mettre forcément en avant juste Mundi, parce que ça te permet aussi de créer un peu une communauté indirectement autour
Exactement.
de ton produit. Tu vas en organiser une fois tous les 15 jours ou c'est quoi?
Tout dépend. Ça fait partie de nos objectifs de trimestre.
D'accord.
Chez nous, on est très, très organisé au sens tous les 3 mois, tu discutes avec toutes les équipes parce qu'un événement, ce n'est pas juste marketing. Tu peux avoir aussi d'autres équipes impliquées. Donc, ce trimestre-là, on a 2 événements prévus. On a déjà fait l'événement avec les juristes et on a un deuxième événement qui concerne justement les professeurs, les académiques.
Ah, d'accord. Ah
Seulement
oui,
les
prestige.
académiques.
Ah,
Ouais,
trop bien.
et voilà, exactement. Et du coup, on a prévu 2 événements et je conseille de ne pas juste faire des webinaires juste au hasard comme ça. Il faut bien réfléchir en avance parce que pour avoir des bons speakers, les intervenants, c'est pas facile. Et si tu as des bons speakers, tu n'as pas de problème d'avoir les gens qui les attendent, les RSVP. Ça va augmenter si c'est une personne connue. Donc, réfléchissez des personnes que vous invitez sur le webinaire. Et bien sûr, il faut toujours penser à la diversité sur le panel. Chez nous, on a une règle que c'est moitié-moitié, donc 50% femmes et 50% hommes. Et ça, c'est une règle que je respecte, que
Bravo.
j'essaye de respecter. Oui, c'est très important. En droit, on parle de la diversité. Et du coup, mes collègues, j'ai dit, mais non, il faut maintenant des femmes. Les hommes, on en a assez maintenant sur le panel.
c'est important. Et
Ouais.
puis en plus, je trouve que ça donne une belle image de la boîte aussi, qui est de la diversité. Et quand tu choisis aussi des gens connus, ça permet de profiter de leur notoriété. Donc il y a un partage de visibilité qui est assez intéressant. Justement, donc tu mènes plusieurs actions quand même en parallèle au niveau marketing, tu es assez active. Et donc, quels sont les KPI que tu suis au quotidien?
Au quotidien, c'est assez classique en marketing, c'est l'acquisition des prospects. Donc, on appelle ça inbound leads. Et c'est des prospects au sens, c'est des personnes qui viennent sur Youth Mundi parce qu'on a une semaine d'un essai gratuit d'une semaine. Et mon KPI, du coup, c'est ça, de ramener plus des personnes qui testent, qui s'inscrivent et qui testent Youth Mundi. Et derrière, ça aide l'équipe commerciale pour les contacter, pour voir est-ce que c'est un cabinet, est-ce que c'est un juriste, est-ce que c'est un professeur, est-ce que c'est un étudiant, parce qu'on a plusieurs types d'utilisateurs. Et mon KPI, le grand KPI en marketing, c'est ça. Après, tu peux avoir, bien sûr, il faut faire au moins un événement, des KPI, mais le vrai KPI, c'est les inbound leads. Donc, tu mets toute la stratégie autour de cet objectif global. Et si jamais, si tu le traques, parce que tu ne peux pas juste dire, OK, 20 leads, pour prendre un exemple, 20 personnes par semaine, il faut que tu traques aussi, si jamais tu as une petite augmentation dans les gens qui ont créé leur compte, tu peux un peu aller voir, OK, ah, OK, je comprends, parce qu'on a fait une action, c'est-à-dire un événement ou un contenu ou un post sur LinkedIn. On voit directement l'impact sur le KPI. Donc ça, c'est une bonne chose. Si tu vois que ça descend, il faut réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Ah, OK, peut-être qu'on n'a pas fait assez de posts sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi les gens, ils n'étaient pas très actifs. Donc, tu vois, le gros KPI, ouais, je vais dire inbound leads.
Et puis après, c'est vrai qu'il faut tout le temps réajuster ces actions marketing. Ça, c'est
Oui.
hyper important. Et puis oui, puis des fois, on fait des flops, hein, aussi.
Oui, mais j'aime bien en fait en marketing, tu ne peux pas juste dire que voilà, 5 actions qui fonctionnent bien hein, pour toutes les legal tech. Ça ne peut pas être comme ça. C'est des stratégies développées pour ta propre boîte et tu ne peux pas savoir les actions qui fonctionnent et les actions qui ne fonctionnent pas sans avoir testé. Donc, moi, je mets quelquefois, je teste, je prends mon profil personnel pour tester des choses et je vois un peu la réaction, qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça fonctionne, les gens, les commentaires, le feedback. Et puis, je monte au niveau de Youth Mundi la page
Mais c'est
principale.
intéressant. C'est
Oui, parce que comme
tu es
ça,
ton
c'est
propre
safe.
labo. Tu es ton
Oui,
propre
exactement.
labo. Bon, mais ça c'est une bonne technique. Moi, j'aime bien le fait que ce soit une boîte internationale parce que j'en vois pas tous les 4 matins. Et donc, quelles sont les différences majeures que tu vois d'un pays à l'autre?
C'est surtout, c'est plus, je vais dire, pour l'équipe commerciale, en fait, parce que, y a quand même cet aspect de culture, comment tu fais la négociation. Aux États-Unis, par exemple, c'est des gens très directs, tu peux juste envoyer un petit message, tu n'as pas besoin de raconter comment tu vas et tout ça, tu rentres dans la discussion directe. Et c'est pareil, je vais dire, enfin, c'est pareil dans le monde anglophone, en tous les cas, c'est assez direct. Amérique du Sud, c'est des gens, et même en Asie, hein, c'est des gens relationnels. Donc, d'abord, il faut créer la confiance avec eux,
C'est un peu
et
plus long.
après, voilà, c'est ça. Et après, tu peux faire la vente, mais il faut être ami d'abord, et après, tu fais ta vente.
Non, mais
Et
je trouve ça intéressant, moi. Je trouve ça génial
ouais,
que tu puisses comparer, du coup, c'est top.
c'est. Et marketing, c'est pareil, hein. Tu un peu adaptes selon. l'email va partir dans quel pays? Donc, si ça part en Amérique du Sud, les utilisateurs là-bas, je vais réfléchir côté marketing. Est-ce que je l'envoie en espagnol ou en portugais pour adapter un peu justement parce que les gens, ils aiment bien quand tu reçois un email ou un message dans ta langue maternelle. Donc, c'est très, très apprécié. Donc, c'est côté marketing, on s'adapte comme ça.
OK. Et justement, je profite de ça pour rebondir sur ma prochaine question. C'est comment ça se passe le closing chez vous?
Alors, le closing, encore une fois, il y a un peu le cabinet est basé où, l'entreprise, la siège est où, parce qu'il faut d'abord trouver les decision makers, les gens qui prennent la décision. Parce que c'est eux qui vont décider de prendre l'abonnement. En legal tech, ce qu'on a vu, ça peut être un peu long. Mais dès que tu as ces acteurs mappés sur une liste, ça devient assez clair pour l'équipe commerciale pour aller closer. Une fois, bien sûr, eux, ils ont leur propre stratégie. Est-ce que tu as une seule personne impliquée pour prendre la décision? Est-ce que tu as plusieurs personnes? Et ça peut arriver aussi que c'est un associé et c'est un CFO, la personne de l'équipe finance. Mm-hmm. C'est les deux qui vont décider. Et du coup, toute la stratégie, ça peut prendre un peu de temps si c'est un cabinet multinational parce que là, on parle de, je ne sais pas, vingtaine de bureaux l'abonnement, c'est au niveau de ces 20
bureaux. La prise
bureaux.
De tête.
Exactement. Et du coup, ça peut prendre un peu de temps.
D'accord.
Et ça, tout dépend de quelle taille, quelle nationalité du cabinet, etc. Mais en tous les cas, dès que tu prends l'abonnement, tu vas travailler avec notre... Head of l'équipe de Customer Success, la service client qui fait l'onboarding utilisateur.
Tu as répondu à ma prochaine question, c'était sur l'onboarding. OK, donc vous avez un SAV qui est assez important quand même.
Oui, c'est assez classique comme D'accord. tous les abonnements. C'est inclus dans l'abonnement. Et là, récemment, on a fait une session d'onboarding globale qui était ouverte à tous les utilisateurs, peu importe client ou pas, justement parce que c'est très important de connaître, de savoir comment utiliser Usmundi. Parce que tu as plein de produits. Après, c'est très user-friendly, mais nous, on montre aussi que le hack, comment tu peux faire ça plus rapide. Et ça, c'est des choses que tu apprends pendant l'onboarding. Et dans l'équipe, on a des spécialistes, des ex-avocats comme moi, en fait. C'est eux qui, quelquefois, qui te montrent comment faire la recherche rapidement pour économiser le temps. Donc,
dis-moi, il n'y a que des avocats dans ta boîte.
On est pas mal. On est le président de Usmundi, Jean-Rémy Domestre, c'est un ancien avocat aussi. C'est d'ailleurs c'est son idée. C'est lui qui a vu qu'il y avait quand même quelque chose à faire dans le domaine du droit international et l'arbitrage. Le directeur des partenariats, c'est aussi un ancien avocat. Notre head of legal content, la chef, c'est aussi, elle a travaillé dans un grand cabinet d'avocats et ça nous aide en legal tech. C'est les meilleures personnes et on a tous travaillé dans le domaine de nos prospects, donc on comprend les besoins et ça nous aide à développer les outils, l'innovation avec l'équipe tech. Après, c'est la solidarité, la collaboration des différentes équipes, mais oui, certainement, ça nous aide pour avoir des avocats. Même dans l'équipe commerciale, on a des avocats.
Non, mais c'est important parce qu'en plus, dans ton domaine, vous touchez quand même le fond du droit. Ce n'est pas juste un outil SaaS de gestion de projet, Exactement. Si je puis dire. Donc oui, il vaut mieux te spécialiser dans le domaine. Dernière question que je voulais te poser, c'est quel est le prochain levier que tu vas mettre en place? J'ai vu que tu étais sur Clubhouse, hyper active, donc je ne sais pas si ça fait partie de ton petit hack marketing personnel.
Oui, c'est pour la marque personnelle. Oui, Arbitration Happy Hour sur Clubhouse que j'anime avec une co-host, Svenja Wachtel. C'est une copine que j'ai rencontrée en pandémie. Donc, nous, on le fait à deux pour l'animer chaque semaine. Mais là, personnellement, au niveau de Youth Mundi en marketing, on a créé deux publicités. Comme en fait les pubs que tu vois sur la télé, ça c'est une approche assez unique et je n'ai pas vu ça encore dans le marché, enfin au moins dans en legal tech, j'ai pas vu en fait une pub où tu as des acteurs en fait. C'est
D'accord, ok, ouais, bah écoute, intéressant.
oui, donc je vais publier ça justement pour voir la réaction de la communauté juridique. Est-ce qu'ils m'ont aimé, est-ce qu'ils m'ont pas aimé, j'en sais rien,
Ben,
mais
ouais. Je vais
je croise mes
surveiller ça
doigts.
de près. Je vais surveiller ça de près. Et puis ce serait
Oui.
intéressant d'avoir du coup un petit retour. Je ferai un petit up pour les gens
Oui,
qui nous
oui.
écoutent. Merci beaucoup,
Merci à toi.
Sonia. Et puis je te dis bonne continuation.
Merci beaucoup et bon courage à toi avec ton podcast et
Et tout le
ton
reste.
entreprise. Oui, tout le reste, voilà, exactement.
À bientôt.
À bientôt.